On parle souvent des Jeux de la Francophonie pour des exploits athlétiques, mais c'est aussi et surtout une belle vitrine culturelle pour la jeunesse notamment. On va en parler avec des gens du Conseil des arts du Conseil des arts du Canada. Je vais y arriver. On va parler de rayonnement des talents à l'international. J'ai le plaisir pour ça de recevoir Liz Anne Johnson, directrice générale des programmes de subvention aux arts, et Danielle Sarraud, agente de programme pour les Jeux de la Francophonie. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Alors, concrètement, s'il fallait déjà expliquer à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler ce que c'est que les Jeux de la Francophonie.
Alors, les Jeux de la Francophonie, c'est un grand rendez-vous international qui rassemble à tous les 4 ans des jeunes artistes et athlètes francophones et francophiles de 18 à 35 ans. Et pour les artistes ici, notamment dans les communautés francophones et maritimes, c'est une occasion exceptionnelle de faire rayonner leur talent sur une scène mondiale.
Alors, y a différents volets dans les Jeux de la Francophonie. Le volet culturel des Jeux est assez important. Pourquoi est-ce, selon le Conseil des arts, un rendez-vous absolument stratégique, notamment pour la diplomatie culturelle canadienne?
Mais je peux commencer par nommer les catégories artistiques. Si on parle de chansons, de contes, de création numérique, de danse de création, de peinture, de photographie, de sculpture installation, de théâtre et finalement la littérature, donc spécifiquement le genre littéraire de la nouvelle.
La
Donc,
prochaine, allez-y.
moi, je dirais pourquoi c'est important pour le Conseil des arts du Canada. On veut appuyer le relève, on veut appuyer les jeunes artistes pour lancer leur carrière sur la scène internationale. Et oui, ça fait partie aussi de un positionnement du Canada sur la scène internationale pour montrer le talent qui est ici, pour bâtir les relations avec la francophonie partout au monde. Alors, oui, c'est un événement qui est vraiment spécial.
Alors, la prochaine édition aura lieu du 23 juillet au 1er août 2027. Il y a un peu de temps pour se préparer. Ça se passera à Erevan, en Arménie. Mais la période de candidature se termine bientôt, puisque ça se termine le 10 avril et que les sélections auront lieu en mai. C'est bien ça?
C'est bien ça, c'est que ça se fait en plusieurs étapes. Et nous, le patrimoine canadien nous a donné la responsabilité d'administrer la présélection nationale. Donc, avant d'en arriver à connaître l'équipe Canada, nous, on lance un concours, un appel aux candidatures pour présélectionner pour chacune des 9 disciplines culturelles jusqu'à 3 candidats ou candidates présélectionnés. Donc, au total, un maximum de 27 candidatures. Et ensuite, nous, on remet à Patrimoine canadien qui lui remet au Comité international. Et c'est à l'été, en fait, le 31 juillet de cette année qu'on va savoir finalement qui compose l'équipe Canada.
Ce qui va laisser un peu, enfin, une année pour se préparer pour y aller finalement.
Oui, ça passe très vite, par contre. Parce que sachant que c'est le 31 juillet qu'ils sont choisis, en fait, il faut que les œuvres soient terminées pour à peu près février, mars. Les œuvres doivent se rendre. Hein?
Bien sûr. Alors, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on cherche plutôt des artistes déjà bien établi, ou est-ce qu'on veut vraiment prioriser sur la relève?
La relève, c'est très important pour cet événement-là. Bien sûr, il y a des gens qui sont peut-être un peu établis déjà. On accepte ces candidatures-là aussi. Mais c'est vraiment un tremplin pour les gens en début de carrière ou qui veulent que leur carrière peut-être prenne une dimension internationale.
Alors, une fois que la sélection est faite, comment est-ce que le conseil accompagne ces créateurs? Est-ce qu'on les prépare à ce choc des cultures, à cette scène mondiale?
Mais nous, c'est vraiment l'étape de la présélection. On commence déjà à les habituer à savoir quels seront les critères d'admissibilité des concours les critères d'évaluation, pardon, au concours même. Donc, ils sont déjà habitués, ils ont déjà une œuvre. On les habitue au fait que, par exemple, en peinture, oui, il y a l'œuvre qu'ils soumettent, qui est évaluée, mais une fois rendus sur les lieux, ils devront aussi créer une œuvre sur les lieux à thème imposé. Donc, on les habitue un peu à ces circonstances-là, mais c'est vraiment Patrimoine canadien qui leur donne des sous pour préparer leur œuvre, qui s'occupe de tous les arrangements de voyage et qui, comme vous dites, les prépare peut-être au choc culturel.
Mais un bénéfice pour le Conseil des arts du Canada, c'est que comme bailleur de fonds, on soutient bon, des milliers des artistes partout au pays. Je pense que nos subventions l'année passée a réussi à connecter avec presque 2000 communautés de l'Est à l'Ouest. Alors, pour nous, c'est aussi une opportunité de, bon, d'introduire le conseil aux jeunes artistes pour faire connaître nos programmes de subvention pour pour le futur de leur carrière.
Alors, à une époque où tout peut se faire à distance, c'est d'ailleurs le cas de cette entrevue, c'est quoi la valeur ajoutée que de réunir tous ces artistes au même endroit à l'été 2027?
Il y a plusieurs bénéfices pour l'artiste même et pour les gens qui sont sur place. Par exemple, il y a beaucoup de réseautage qui se fait. Parfois, il y a des gens qui se lient d'amitié avec quelqu'un d'un autre pays et qui décident de faire des projets ensemble. Puis en fait, j'ai un exemple concret pour vous. À l'édition de 2017, où on était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un de nos membres d'équipe Canada, un conteur, Benoît Davidson, était allé, avait participé, et a tellement fait impression que quelques années plus tard, il y avait un grand événement qui s'appelait MASA, le marché des arts du spectacle d'Abidjan en 2020, et il a été invité pour revenir.
Moi,
Donc,
je dirais aussi qu'il y a plusieurs champs artistiques qui a un impact beaucoup plus fort en personne que en mode virtuel. La danse est un bon exemple.
alors, on va parler innovation et numérique aussi. Je sais, Madame Johnson, vous avez piloté des grands dossiers sur le virage numérique, il me semble. Comment les jeux s'adaptent à cette réalité? Est-ce qu'on encourage les artistes à utiliser, par exemple, des technologies ou des choses un peu hybrides pour que leur passage au jeu survive à l'événement?
Bon, la création numérique, c'est une des disciplines culturelles, un champ. Alors, et ça reflète en fait les tendances dans le secteur des arts pour les artistes de faire l'innovation, d'expérimenter avec les nouvelles technologies. Alors, il y a une grande ouverture de qu'est-ce qui est dans cette catégorie. Ça peut être d'expérimentation avec intelligence artificielle, ça peut être les technologies immersives, par exemple, les créations numériques. Et bien sûr, je pense que pas seulement pour la création numérique, mais pour toutes les œuvres qui sont créées, on aimerait bien sûr avoir, on veut que les œuvres aient un impact et une vie qui continue après les Jeux.
Alors, est-ce qu'une médaille ou une mention aux Jeux de la Francophonie, ça change réellement la trajectoire d'une carrière ici au Canada?
Ben, c'est une plume importante au chapeau d'un artiste. Je pense que c'est spécial. Il y a un artiste, par exemple, par le passé, il y a plusieurs éditions, qui lui disait, ben moi j'y vais pour l'opportunité et tout ça, mais la médaille bof. Et finalement, il a gagné la médaille d'or. Il était tellement ému, tellement content. C'est un honneur et c'est un honneur qui est 100% mérité par la personne. Alors pourquoi pas?
Est-ce qu'il y a des domaines artistiques où la présence canadienne est un peu plus attendue sur cette édition à venir?
Mais le Canada est très, très fort dans les arts de la scène. Très, très fort. Mais en fait, je ne sais pas s'il y a des disciplines plus que d'autres. Je m'apprêtais à tous les nommer. Je peux vous dire aussi que, vu que les Jeux ont lieu à tous les 4 ans, pour retourner à la question sur les tendances numériques, depuis la première édition des Jeux, les catégories ont changé. Il y en a qui demeurent toujours. Il y a toujours la danse, il y a toujours la chanson, mais il y a du mouvement dans les disciplines. Et puis, un exemple, c'était que au jeu de 2017, il y avait une catégorie de création durable et le Canada gagnait la médaille d'or. Les pays d'hôtes changent et donc parfois, ben là, cette catégorie n'est plus disponible. Mais pour la question des technologies, moi, j'ai l'impression que les prochains jeux dans 4 ans auront probablement encore plus d'opportunités pour la technologie.
Alors, après les Jeux de la francophonie, comment est-ce que les œuvres voyagent une fois que c'est fini? Est-ce qu'on peut les retrouver? Est-ce qu'il va être envoyé à Erevan? Est-ce qu'on va le voir revenir ici au Canada par la suite?
Les œuvres appartiennent aux artistes, donc les suivent absolument.
Je pense qu'il y a des ça dépend de l'œuvre et de l'artiste. Il y a, c'est sûr, il y a des œuvres comme l'exemple que Daniel a nommé pour l'artiste qui était invité à Massa. Ça, c'est un peu le but, c'est pour cette opportunité d'être un tremplin pour l'artiste, mais ça peut être aussi pour l'œuvre. Un des bénéfices, c'est cette connexion avec la francophonie et la possibilité de développement des marchés pour les artistes et les œuvres qui étaient créées. Alors oui, probablement, il y aura des œuvres qui fonctionnent vraiment seulement dans le cadre des jeux, mais c'est sûr qu'il y a d'autres œuvres qui va voyager, qui va avoir d'autres public en hors des jeux.
Et bien sûr, nous, on fait la promotion, la diffusion des artistes, qu'ils aient gagné des médailles ou non. D'ailleurs, sur notre site web, on a toujours, des belles images des œuvres de 2017 de l'équipe Canada.
Alors, on rappelle que la période de présentation des candidatures se termine donc le 10 avril, c'est dans quelques jours seulement. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire aux jeunes créateurs qui nous écoutent? C'est quoi le message du Conseil des arts concernant, par exemple, l'audace de s'exporter à l'international?
Le message, je crois, c'est que c'est une très belle chance pour aller dans un autre pays, être très bien entouré de d'autres artistes qui œuvrent aussi dans la francophonie. C'est le temps de soumettre votre demande, ça n'a lieu qu'à tous les 4 ans, et que le conseil est prêt à recevoir votre candidature. D'ailleurs, moi-même, je suis agent dédié au jeu et ça me fait plaisir d'aider les gens avec leur candidature. Sur notre site web, on a un formulaire tout simple, tout simple. Alors, on a rendu ça le plus simple possible.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter pour conclure?
Peut-être juste pour rajouter qu'on sait à quel point il y a une richesse culturelle en français. Partout au Canada, au Québec, mais aussi dans les communautés en langue minori situation en langue minoritaire. Il y a une grande richesse en Acadie, en reconnaît ça. Alors, juste pour dire que je pense que c'est une très belle occasion de célébrer cette richesse.
Les informations sont disponibles évidemment sur le site internet du Conseil des arts, conseildesarts.ca. Merci mesdames de nous avoir accordé ces quelques minutes.
C'est un plaisir.
Merci à vous.
Ici Sébastien Caron pour IGL à Fredericton.